marquant de votre vie ? Alors, je vous pose cette question, vous n'êtes pas obligé de répondre. Quels sont l'événement ou les événements qui vous laissent le souvenir le plus profond, le plus intense ? C'est pas grave, vous pouvez répondre aussi. Mais je voulais embarrasser personne, alors je me suis dit, je vais pas vous demander de répondre. Et je pense qu'il y a un point commun à tous ces événements, c'est que ces événements étaient accompagnés d'une émotion intense, profonde. Et dans les événements qui nous ont le plus marqués, soit c'était un bonheur intense, il y a quelqu'un qui a dit, ben voilà, la naissance de mes enfants, quand ils rencontraient Jésus-Christ. Peut-être certains ont pensé à leur mariage ou à une belle, un beau moment passé dans l'amitié. Ça peut aussi être des moments absolument tragiques, la perte d'un proche ou autre. La tristesse de voir partir un ami à l'étranger. La colère produite par le départ d'un proche qui a lutté pendant longtemps avec le cancer. Ou bien aussi l'amour que vous avez ressenti la première fois que vous avez vu ce beau jeune homme qui est devenu votre mari. Les émotions jouent un rôle absolument central dans nos vies. Et ce sont bien souvent elles qui favorisent le souvenir, mais également qui nous guident dans la vie. Je vais aller passer ma soirée là-bas vendredi prochain parce que je vais passer un bon moment. Ça va être réjouissant. Et je ne vais pas aller avec telle personne parce qu'avec telle personne, on s'ennuie. Souvent, c'est nos émotions qui guident nos choix, qui guident nos décisions. Ou en tout cas pour les choix les plus importants. Notre conjoint, notre lieu de vie, notre métier. Et si on croit les pubs, même le choix de votre dentifrice est guidé par vos émotions. Parce que quand vous allez vous brosser les dents, vous allez penser à cette charmante jeune femme que vous avez vue dans la pub. Et aujourd'hui, l'air du temps, tout nous pousse à prendre des décisions avec nos émotions. On essaye un peu partout de nous dire, mais fais tes décisions en fonction de l'expérience que tu vas vivre. Peut-être la seule chose qui est entre parenthèses là-dedans, c'est le monde professionnel. On dit, mets tes émotions de côté et réfléchis avec ta tête. Prends des décisions avec ta tête. Mais sinon, dans la vie courante, dans la vie de tous les jours, les émotions sont vraiment centrales. Et je me dis, mais en voyant la place qu'occupent nos émotions, ben, ça vaut la peine d'en parler et de voir ce que la Bible dit de ces émotions. Faut-il laisser les émotions de côté ? Les ignorer ? Ou au contraire, les entretenir ? La semaine dernière, nous avons parlé de la joie, qui devrait normalement caractériser la vie chrétienne. Et la semaine prochaine, nous parlerons... Enfin, la semaine prochaine, non, ce ne sera pas la semaine prochaine, mais la prochaine fois que j'apporterai le message, nous parlerons de la peur et du zèle. Et ce matin, comme c'est affiché sur le projecteur, on va parler de la haine. Il y a beaucoup de récits bibliques qui témoignent de la haine des hommes. On a eu une série avant les histoires croustillantes de l'Ancien Testament, on a pu en avoir un petit aperçu, et j'aimerais encore vous raconter une histoire de l'Ancien Testament qu'on lit en 2 Samuel 13 et suivant. Alors, je vais raconter l'histoire, je vous laisserai la lire à la maison. C'est l'histoire d'Amnon, Absalom et Tamar. Ce sont deux fils et une fille de David. Absalom et Tamar sont frères et sœurs à 100%, et Amnon, c'est un demi-frère. Et Amnon tombe éperdument amoureux de la belle Tamar, à tel point que ça le rend malade, ou en tout cas, il se dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour que je puisse enfin avoir Tamar ? Puis il en discute, et puis il décide, avec un de ses conseillers, de faire semblant d'être malade. Et puis... il tombe malade, son père vient le voir, et puis Amnon lui dit, mais j'arrive plus à manger, mais demande à Tamar de venir me préparer à manger. Si c'est Tamar qui prépare à manger, je mangerai, je reprendrai des forces, ça ira mieux. Tamar vient, Amnon fait semblant d'être très souffrant, il est couché au lit, il demande à tout le monde de sortir, il force sa sœur à venir lui servir le repas au lit, et il est vraiment, on pourrait dire, éperdument amoureux d'elle. Et là, il dit à Tamar, mais viens, on va coucher ensemble. Puis Tamar dit, non, mais il faut pas que ça se passe comme ça, demande ma main à notre père, il sera certainement d'accord de te l'accorder. Mais il veut maintenant tout de suite, alors il viole Tamar, et juste après, il la prend en haine. Il était amoureux, et tout d'un coup, il la déteste. Il ne peut plus la voir, il ne peut plus la sentir. Une fois que c'est fini, il lui dit, ben, tu prends ton manteau et tu pars. Puis elle dit, non, mais attends, tu vois ce qui vient de se passer, puis tu me mets dehors. Attends, non, ça va pas, on ne va pas faire comme ça. Puis il dit, non, 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 puis il appelle ses serviteurs pour la mettre dehors. Et donc, Tamar est forcée de partir. Et ce que je trouve impressionnant dans cette histoire, c'est la rapidité de laquelle on passe, ou de laquelle Amnon passe un sentiment amoureux, d'amour, à un sentiment de haine, de dégoût. Et j'étais surpris de voir, j'ai lu un livre la semaine dernière, il y a exactement ce même motif. Voilà, c'est dans Robin des Bois, j'ai voulu commander un livre sur Amazon pour mon fils Robin des Bois, et je me suis retrouvé avec un pavé comme ça d'Alexandre Dumas. Alors voilà, et je me suis dit, bon, j'ai jamais lu l'histoire de Robin des Bois autre que celle de Walt Disney. Je me suis dit que j'allais lire. Et dans cette histoire, il y a un homme absolument abject qui tombe amoureux d'une femme et qui magouille un mariage avec un faux prêtre. Et après, qu'il n'aime plus du tout, qu'il la haine, qu'il la tue, qu'il l'enterre. Voilà, c'est absolument horrible. On parle de la haine, hein, on n'est pas en train de parler de quelque chose de beau, de réjouissant. Mais j'ai été surpris de voir en fait que là aussi, tout d'un coup, il y a un motif où on passe de l'amour à la haine de manière comme ça, enfin, en l'espace de quelques jours, peut-être quelques semaines. Puis on se dit, mais comment c'est possible? On pense l'amour est là, la haine est là, c'est deux sentiments absolument antagonistes. Comment peut-on passer de l'un à l'autre aussi rapidement? Puis en y réfléchissant, je me suis dit, mais c'est vrai que c'est pas juste un motif qu'on retrouve dans les histoires. Si c'est dans les histoires, alors les romances comme Robin des Bois, mais dans des histoires vraies aussi comme celles qui sont dans la Bible, c'est aussi parce que c'est quelque chose que les gens vivent, malheureusement. Et je pense qu'on connaît tous quelqu'un où ils se sont mariés, où il y avait un bel amour, puis tout d'un coup il y a eu des histoires dans le couple, ils se sont divorcés, puis ils se détestent cordialement l'un l'autre, et quand ils se voient, on sent l'électricité dans l'air. C'est quelque chose qui se passe, c'est quelque chose de la vie, de pas tous les jours, heureusement, mais c'est quelque chose qui arrive. Comment cela peut-il se produire? Ben, moi, ce que j'imagine avec Amnon, c'est qu'il aimait tellement sa sœur. Il a imaginé qu'il allait pouvoir trouver son bonheur en elle. Et puis, il passe à l'acte de manière totalement abjecte. Il se jette sur elle tel un rapace, tel un vautour. Et en faisant cela, il y a une immense désillusion. Puis bon, c'est assez compréhensible. Si on va violer quelqu'un, on ne va pas trouver l'amour. Ça paraît assez logique. Mais il y a cette désillusion qui est là, peut-être deux désillusions. La première, de voir que finalement, il ne trouve pas son bonheur. Il avait une telle attente par rapport à sa sœur que c'était impossible que son attente soit satisfaite. Puis j'imagine aussi qu'il a dû avoir une sacrée désillusion sur lui-même et puis sur qui il était. Et en prenant conscience de ces deux choses, il a eu un réel dégoût pour sa propre personne, j'imagine, et puis pour sa sœur. Et je crois qu'il y a deux choses qui ressortent de cette histoire. C'est que la haine et l'amour ne sont pas forcément si éloignés qu'on l'imagine. Et que ce sont deux sentiments opposés, mais qu'on peut facilement passer de l'un à l'autre. Et si on pense à nos pires ennemis, si vous n'avez pas d'ennemis, mais pensez aux ennemis des autres, ben, en général, quand il y a quelqu'un qui déteste vraiment quelqu'un d'autre, c'est parce qu'il y a eu une histoire d'amitié avant. Il y a eu quelque chose de fort qui se sont passés entre les deux personnes. Les personnes à qui on va vouer la plus grande haine, c'est les personnes qu'on admirait avant. Alors bon, vous écoutez tout ça, puis peut-être que vous dites, mais c'est bien beau toutes ces paroles, tous ces discours, mais moi j'ai la haine dans mon cœur et j'y peux rien. C'est comme ça, je ne maîtrise pas mes sentiments et cette haine, elle est là. Qu'est-ce que j'en fais? Voilà un texte qu'on peut lire dans le psaume 37, versets 1 à 9. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Fais de l'Éternel tes désirs et il donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Si tu penses que ton ami peut t'apporter le réconfort dont tu as besoin, tu te trompes. Un jour ou l'autre, il te décevra, car c'est un homme faillible. Et peut-être même qu'il va faillir là où tu t'attendais le plus à lui, là où tu disais là, c'est bon, je peux compter sur lui. Et un jour, pour une raison ou pour une autre, il n'est pas là. Et ce qu'on a tous tendance à faire, c'est de voir dans cette défaillance une trahison. Et quand on est trahi, y a la haine qui vient parce qu'on se dit « mais c'est pas possible, mon ami, celui que j'aimais, celui en qui j'avais mis ma confiance, il m'a trahi. » Peut-être que ça n'arrivera pas avec ton ami, mais avec un politicien en qui tu avais confiance, avec ton patron, ton collègue, ton associé. Mais si tu fais de l'Éternel tes délices, ton cœur sera comblé. Et lorsque la déception sera là, ce ne sera pas une perte de repère. Ce ne sera pas une perte d'identité, de moyens. La deuxième chose que tu peux faire si tu prends en haine quelqu'un, c'est d'en parler. Parle-en. Pas pour médire sur l'autre. Parle-en pour rechercher la justice. Parce qu'on lit souvent ce texte « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire ». Et ce qu'on voit qui est impressionnant, c'est qu'en fait, ça se passe dans un contexte où David il dit « Mais il y a ces méchants qui sont là. Il y a ces méchants qui sont là et j'ai envie de leur casser la figure. » Enfin, il ne le dit pas comme ça, mais on le ressent. Puis il dit « Non, je ne vais pas le faire. Je vais faire confiance à l'Éternel. » La deuxième chose que tu peux faire, c'est vraiment parler de ta haine. Lorsque Jésus s'est fait trahir par Judas, vous connaissez cette histoire, il était en train de prier avec ses disciples, Judas était parti pour chercher les Romains, et Judas s'approche de Jésus et fait « Mon ami !» et il l'embrasse. En l'embrassant, c'était un signe d'amitié. Et le signe qu'il avait donné aux Romains, aux soldats, pour l'arrêter. Et Jésus aurait pu faire, puis passer tout droit, la tête haute, sans dire un mot. Un geste d'amitié pour le trahir. Mais Jésus choisit un autre moyen. Il ne passe pas la tête haute sans lui adresser la parole. Il lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu as choisi de trahir le Fils de l'homme. Judas, mon ami, tu m'as trahi, tu m'as blessé, ça me fait mal. Il ose exprimer cette trahison. Quand Amnon a volé Tamar, son frère Absalom, frère de Tamar, a été profondément choqué. Et la Bible nous dit qu'il a gardé le silence. Il a gardé le silence et il a gardé toute sa haine, toute sa colère en lui. Et il a attendu le bon moment pour aller zigouiller Amnon. À un moment donné, quelques temps plus tard, il invite tous les frères chez lui, et puis le roi il décide de ne pas venir, donc il invite tout le monde chez lui, et hop, il zigouille Amnon. La haine l'a conduit jusqu'au péché. Que se serait-il passé s'il avait parlé? Il aurait pu au moins aller en parler à David pour essayer de qu'il y ait un semblant de justice. Mais non, il choisit de tout garder pour lui. Et puis après, ça va encore plus loin, puisque Absalom cherchera même à renverser son père. Que se serait passé? Que se serait-il passé s'il avait osé en parler? Non pas pour médire, mais pour chercher la justice. Quand vous avez de la haine pour quelqu'un, parlez-en. Si c'est possible, cherchez la justice et dans tous les cas, pardonnez. Et on le voit dans les psaumes, par exemple celui qu'on vient de lire en exemple. David fait confiance à Dieu pour établir la justice. Et vous savez, la haine, ce n'est pas un péché en soi. Ce n'est pas parce qu'on a de la haine dans le cœur que c'est forcément quelque chose de mauvais. Et on peut lire dans la Bible en fait que Dieu, parfois, il a de la haine. Par exemple, en Zacharie 8, verset 16-17, « Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité, chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain et n'aimez pas le faux serment. Car ce sont là toutes choses que je hais, dit l'Éternel. » Dieu a de la haine. C'est surprenant. Moi, j'étais surpris en lisant ce texte. Dieu a de la haine. La haine en elle-même n'est pas un péché. Tout dépend de ce qu'on en fait et qu'est-ce qui est l'objet de notre haine. Psaume 139, versets 19 à 24. « Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant. Homme de sang, éloignez-vous de moi. Il parle de toi. » Il parle de Dieu d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Je les hais d'une parfaite haine. On peut être choqué en lisant ces paroles. Comment la Bible suggère qu'on haïsse quelqu'un? Alors il y a une réponse très facile à ça. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne, mais qu'on va très facilement entendre. Ah, c'est l'Ancien Testament. Je pense que c'est plus cohérent d'y voir la volonté de la part du psalmiste de s'éloigner des hommes qui sont mauvais, des hommes qui cherchent le péché, qui cherchent le mal. Eux, ils font le mal, mais moi je décide de rester à l'écart. Je ne prends pas part à leur péché. Ce n'est pas pour dire que toutes ces personnes, qu'il faut haïr les personnes parce que c'est des personnes, mais vraiment haïr ces personnes parce qu'elles font le mal. C'est un peu comme dit le Proverbe 8, verset 13, « La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. » Et dans le texte qu'on a lu en Zacharie, Dieu il n'est pas en train de haïr les personnes, il est en train de haïr le péché. Et en fait, ce proverbe, c'est d'une assez grande banalité. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Le mal, ce n'est pas bien. C'est ça qu'il dit en fait, hein. La crainte de l'Éternel, c'est de haïr le péché. En gros, aimez le bien, faites le bien et n'aimez pas le mal. Vous avez déjà entendu ça? Oui, tout le monde sera d'accord avec ça. Enfin, si on va dans la rue, je crois que tout le monde va dire « mais il ne faut pas faire le mal, il faut faire le bien ». Toutes les cultures, toutes les religions le disent, ou presque. Imaginez un pays qui fasse l'apologie de la haine, ou qui dresse la cupidité comme une valeur à rechercher. Non, nos héros nationaux, nos légendes racontent des histoires d'hommes et de femmes qui mettent en valeur des bonnes vertus, même si les moyens employés ne sont pas toujours bons. Je parlais de Robin des Bois, par exemple. Robin des Bois va au secours des pauvres. Le prince charmant vient au secours de la malheureuse princesse. Guillaume Tell résiste à l'oppresseur. Martin Luther King a marché pour la paix. Mais on pourrait multiplier les exemples. Les héros mettent de bonnes vertus en avant. Et tout le monde est d'accord, il faut haïr le mal et aimer le bien. Et pourtant, ça se corse un petit peu quand on va un petit peu plus loin que juste cette phrase. Est-ce que si tu refiles une partie du travail pénible à un de tes collègues pour préserver ta santé, si tu as des problèmes de santé, est-ce que c'est vraiment mal ? Après tout, ton collègue, lui, il a la santé. Ou est-ce que dénigrer ton collègue pour obtenir une promotion, parce que ta famille en a vraiment besoin, vous n'arrivez pas à finir les fins de mois, alors tu te donnes un mal fou pour obtenir cette promotion. Tu fais des sacrifices, tu prends des risques, tu dénigres tes collègues, si jamais ça se découvre, ça pourrait être dangereux pour toi. Mais tout ça, c'est pour le bien de ta famille que tu le fais. Est-ce que ce n'est pas beau d'aimer sa famille à ce point ? Et on se rend compte que, au-delà d'une jolie phrase, quand on cherche à mettre ça en pratique, aimer le bien, haïr le mal, ça devient tout de suite plus corsé. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais que je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je ne fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'être intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de cette mort ? Grâce soit rendue à Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. On a beau essayer, on a beau le vouloir, on ne peut pas créer nos sentiments et nos émotions. Et ces sentiments, ces émotions vont nous guider dans beaucoup de choses qu'on va faire. Et on a besoin impératif de Dieu pour nous aider à lutter contre la haine, pour deux choses. Premièrement, pour mettre nos désirs en lui et éviter la frustration qui conduit à la haine. Et deuxièmement, pour mettre en pratique l'amour que Dieu nous donne. Parce que s'il ne nous aide pas, on ne va pas y arriver. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Deux versets qui me remettent profondément en question. Puis quand je lis ces versets, je me dis, mais malheur à moi, qu'est-ce que je peux faire ? Je suis perdu. Comment puis-je lutter contre ces impulsions qui sont dans mon cœur, qui sont si naturelles, qui viennent sans que je le décide. Le premier verset vient de ce texte en 1 Jean 2, versets 7 à 11. « Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement, ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent, et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Et un petit peu plus loin, en 1 Jean 3, versets 8 à 16. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commandement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Et dans ces deux passages, on voit l'importance des émotions. Est-ce que tu vas aimer ton frère ou est-ce que tu vas le détester? Le Fils de Dieu est venu et paru afin de détruire les œuvres du diable. Et par moi-même, j'ai dit, je ne peux pas vaincre mes émotions, je ne peux pas lutter contre mes sentiments. Et si tu es rempli de haine, j'ai envie de te dire ce matin, mais arrête de lutter. Tu n'y arriveras pas. Tu n'arriveras pas à contenir cette haine. Mais Christ, lui, il le peut. Capitule. Jamais tu pourras sortir la haine de ton cœur. Mais Christ est venu détruire les œuvres du diable. Dieu est en colère contre le péché. Le péché, il est collé à ma peau comme des ulcères purulents qui me rongent et me rendent impur pour m'approcher de Dieu. Et à cause de ces ulcères, Dieu me hait. Et pourtant, il n'a pas hésité à envoyer son Fils pour venir me guérir, pour venir panser ses ulcères, pour me restaurer. Christ a porté mes péchés, mes maladies, ma colère, ma haine, afin que la punition que je méritais retombe sur lui. Il a pris mes ulcères afin que je sois libre, libre d'aimer, libre de quitter mon rivage rempli de haine, de tristesse, d'amertume. Jésus a pris cela sur la croix. Et pour moi, c'est la seule solution. Tu ne sais pas quoi faire de ta haine? Va la déposer à la croix. Tu ne sais pas comment gérer ta colère? Va la remettre à la croix. Capitule, la guerre est terminée. Et Jésus a triomphé. Et cette semaine, je discutais avec quelqu'un qui est employé. Et c'est quelqu'un qui est bouillonnant de vie, de joie. Et des fois, je crois que ça avait tendance à agacer ses collègues. Et puis, petit à petit, on lui a refilé des dossiers toujours plus pourris, toujours plus difficiles à gérer. Et puis, on a commencé à la critiquer. Et puis, un jour, elle se fait convoquer dans le bureau de son patron. Et puis on lui dit, ben voilà, tous les reproches, toutes les calomnies que ses collègues avaient fait sur elle. Puis là, ça l'a bouleversée, ça l'a énervée, ça l'a attristée, parce qu'elle se dit, mais zut, je fais bien mon boulot, je fais mon boulot correctement, je gère bien, donc on me refile les dossiers difficiles. Puis après, on vient me calomnier dans mon dos, on vient essayer de me descendre. Puis, cette personne aurait pu décider, mais voilà, de prendre des personnes qui l'avaient calomnié, elle savait très bien qui c'était, en haine, et puis essayer de les descendre, et puis pas être contente, puis tirer la gueule en allant au travail. Et puis, elle allait discuter avec un de ses collègues qui était aussi chrétien. Ils ont prié ensemble. Puis elle allait voir son chef. Elle a dit, ça va pas. Je peux pas travailler comme ça. Et elle a décidé qu'elle allait pas tomber dans cette haine, tomber dans cette colère, mais de garder sa joie de vivre. Puis de continuer, ma foi, si ça exaspère ses collègues qu'elle soit joyeuse, mais continuer à être dans la joie. Elle allait discuter avec son chef direct qui était impliqué dans cette histoire. Et la conclusion de cette affaire, c'est qu'elle va avoir quelqu'un pour l'aider dans son travail, pour que ce soit plus facile à elle pour gérer. Et je me dis, mais c'est génial. Et je crois que c'est un exemple de comment on peut vivre les choses. Est-ce que quand il y a une situation d'injustice, une situation où quelqu'un essaie de nous couler, est-ce qu'on va se laisser gagner par la haine, par la colère, par l'amertume? Ou est-ce qu'on va aller déposer tout ça au pied de la croix, rechercher la justice qui vient de Dieu, puis laisser Dieu conduire les choses? Jésus est venu afin de révéler Dieu. Et il ne veut pas juste nous donner une connaissance théorique, mais il nous envoie son esprit afin que cette connaissance fasse vibrer nos cœurs, nous fasse bouillonner. Quand on regarde le monde, on peut avoir l'idée d'un Dieu créateur. Mais lorsqu'on lit la Bible, lorsque Christ vient apporter sa lumière, on voit que Dieu se révèle comme un Père. De toute éternité, Dieu est un Père. Ça fait partie de sa nature. Nous savons que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit de toute éternité. Et ça change radicalement notre relation à lui. Dieu n'avait pas besoin de la création. Dieu ne s'ennuyait pas avant de créer le monde. Mais aimer, être un père, fait partie de sa nature, de son essence. De toute éternité, il est un père qui aime son fils. De toute éternité, il a engendré le fils. Il n'y a pas un moment où il y avait un père et pas de fils. Ils ont toujours été ensemble, avec l'esprit qui les unissait, dans un lien d'amour parfait. Et cet amour pousse toujours vers l'extérieur. Par amour, il a créé. Avec amour, il est venu sauver. Avec amour, il a banni la haine. Et c'est ce Dieu que Jésus vient révéler. Un Dieu qui, par son esprit, nous aime puissamment. Et aujourd'hui, si tu reconnais que dans ton cœur, tu as besoin d'être transformé jusqu'au plus profond de tes tripes, dans tes émotions, dans tes sentiments, dans ton cœur, il veut nous donner son esprit pour nous transformer. Il veut remplir notre cœur. Il veut que l'amour, et non pas la haine, nous guide dans nos décisions. Il veut être avec nous, Emmanuel. Je vais prier. Seigneur, tu es un Dieu d'amour. Et nous avons besoin de toi. Tu connais notre cœur, tu sais ce qui nous habite, tu sais ce qui nous guide, tu sais ce qui nous conduit. Et on veut te demander de venir nous transformer, de venir transformer nos émotions. Seigneur, maintenant nous voulons nous approcher de toi, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et qu'on ne peut pas lutter contre ce qui habite notre cœur et que nous avons besoin que tu viennes nous purifier, que Jésus-Christ, tu es la seule solution pour nous. Et maintenant, Seigneur, nous voulons déposer notre colère, déposer notre haine, déposer toutes les mauvaises choses qui nous habitent au pied de la croix. Parce que nous savons que sur la croix, tu as vaincu le diable, tu as détruit ses œuvres. Seigneur, nous te remettons les situations injustes auxquelles nous sommes confrontés. Et nous voulons dire que nous nous attendons à toi pour rétablir la justice. Seigneur, viens par ton esprit changer nos cœurs, nous transformer. Seigneur, que ton esprit nous remplisse afin que nous haïssions le mal et que nous soyons remplis de ton amour. Viens éclairer nos cœurs afin que nous marchions dans la lumière et que nous nous aimons les uns les autres. Et Seigneur, il est tellement bon de savoir que nous pouvons nous adresser à toi comme à un Père qui aime.